Montessori au cœur de la vie familiale avec Odile Hanneau.
Odile Hanneau, vous êtes éducatrice de jeunes enfants et vous avez été pendant 15 ans la rédactrice en chef du magazine L'Enfant et la Vie. En 2010, vous fondez les ateliers Parents-chercheurs, une auto-formation fondée sur l'œuvre de Maria Montessori à destination des parents. Vous intervenez régulièrement auprès des professionnels de l'enfance et des parents. Et vous coordonnez le centre Nascita Montessori du Nord. Enfin, vous êtes l'auteur du livre Montessori au cœur de la vie de famille, qui sera disponible en sortie du stand à la fin de la conférence. Donc, la présentation, je laisserai Odile présenter comment elle fonctionne pour sa conférence. Et voilà, à la fin de la conférence, il y aura voilà, le livre disponible à la fin. Voilà. Eh bien, bonne conférence.
Merci, Chloé. Bonjour. Voilà, une heure et demie devant nous, mais librement, chacun part quand il le souhaite. Je sais que c'est très riche, ce salon. Donc, je vais vous proposer une conférence en plusieurs parties. Tout d'abord, nous nous arrêterons sur les découvertes de Maria Montessori. Puis nous prendrons le temps de découvrir ce que sont les attitudes d'un parent qui se fait chercheur en éducation. Et nous conclurons. Et il y aura une petite introduction quand même qui présente Maria Montessori. Donc je suis Odile Hanneau. Et ce qui m'amène, c'est un long cheminement, une longue adhésion à la pensée de Maria Montessori qui s'est faite au fur et à mesure que mes enfants grandissaient et que je fréquentais son œuvre à travers des personnes, un mouvement, des lectures et des mises en œuvre. J'ai eu le bonheur de fréquenter, d'aller à l'école de Jeannette Tout-le-Monde. C'est une vieille dame de 92 ans qui, elle, est allée à l'école de Michel et Fanny Lanternier, des illustres inconnus pour vous. Et pourtant, Michel et Fanny Lanternier étaient des amis, des proches, des élèves de Maria Montessori et de Mario Montessori. Voilà un peu l'histoire. Donc, je suis nourrie de cette fréquentation de Jeannette Tout-le-Monde, qui avait pour vraiment centre d'intérêt de diffuser l'œuvre de Maria Montessori aussi en famille, parce que les premiers éducateurs, finalement, ce sont les parents, les grands-parents, les proches, ceux qui restent. Les parents sont là pour toujours, les professeurs, les éducateurs laissent des souvenirs impérissables, mais ils passent. Et pour moi, c'était vraiment une de mes orientations essentielles de permettre qu'on puisse rencontrer Maria Montessori, la vivre chez soi. Au quotidien. Alors, donc, Maria Montessori, brièvement, je suis désolée pour ceux qui la connaissent peut-être mieux que moi, donc elle est médecin à 26 ans, elle est italienne, elle est née en 1870, décédée en 1952. Elle naît dans une famille très catholique, elle est pluridisciplinaire, c'est une grande scientifique. Elle est à la fois anthropologue, elle est aussi médecin psychiatre, pédiatre, elle a un diplôme de philosophie, de biologie. C'est une savante. C'est aussi une femme très humaniste, très engagée dans la société. Elle milite pour le droit des enfants, pour le droit des femmes. Elle écrit beaucoup dans des revues engagées. C'est une femme de son époque. C'est une chercheuse, évidemment, de par sa formation. Et elle va vraiment fréquenter de nombreux chercheurs en pédagogie nouvelle. Je vais en citer quelques-uns. Elle va vraiment s'intéresser à tout ce courant de pédagogie nouvelle qui naît à la fin du 19e siècle, qui est porté par M. Ferrière, c'est un Suisse. Elle va être aux côtés de Freinet, de Cousinet, de Piaget, qui sera président de l'association Montessori de Suisse. Elle va aussi correspondre avec Freud. elle va rencontrer De Croly, elle va s'intéresser aux écrits de grands pédagogues tels que Pestalozzi, elle va être ouverte, c'est une curieuse. Elle se nourrit aussi du travail de Monsieur Bournonville à Paris, qui est un grand médecin neurologue. Elle va aussi s'intéresser au travail d'Itard et Seguin, qui sont deux éducateurs de l'éducation spécialisée. Elle est curieuse, elle est ouverte et elle trace son sillon dans une grande liberté. Mais elle est quand même pétrie de tout ce courant. Qu'est-ce qui rassemble tous ces pédagogues ? C'est le désir d'une éducation à la paix. C'est le désir d'une pédagogie active, où on prend en compte l'élan de l'enfant, où on prend en compte son besoin de vivre dans la nature, où la mixité est autorisée également, où les arts sont pris en compte, où le travail manuel. Mais derrière ça, c'est vraiment permettre à l'enfant de gagner sa liberté par lui-même. Alors voilà pour la présenter très rapidement. Dans le livre, je présente vraiment Maria Montessori de façon inédite dans toute la troisième partie. Et puis, elle va rencontrer des disciples, des personnes qui vont vraiment être en accord avec ce qu'elle construit, elle, et qui vont la rejoindre. Aujourd'hui, elle est très à la mode. Les neurosciences valident ce qu'elle a, elle, vu de ses yeux. Il n'y avait pas les scanners, il n'y avait pas les IRM. Hein. Et elle a observé. C'est ça, être scientifique. C'est observer. Observer la vie qui nous entoure. Voilà, donc elle est dans ce grand projet pacifique. Elle traverse les deux guerres, donc vous comprenez qu'elle n'est pas naïve. Hein. Elle est dans ce grand projet pacifique qui passe, selon elle et tous ses grands pédagogues, par l'éducation moderne. Donc, je vous propose de m'écouter avec, bien sûr, votre expérience à vous. Je n'ai pas la science infuse du tout. Donc, voilà, librement, vous écoutez, vous dites « ouais, ça correspond » ou bien « ça me questionne ». Voilà, vraiment très souplement, très librement. Moi, j'ai choisi vraiment d'approfondir sa pensée. Mais voilà, elle a ses limites, mais il y a du fond, il y a du potentiel. Alors, quel est l'apport de Maria Montessori pour les sciences de l'éducation ? En fait, ça n'est pas une méthode. Pour des raisons pratiques, on parle de méthode. Mais elle n'a rien construit, Maria Montessori. Je le dis vite, hein. Mais en fait, elle a découvert. Elle a découvert un certain nombre de caractéristiques qui font l'homme, tout homme, de tout temps, en toute société, et elle les a honorées. Donc, quelles sont ces découvertes de Maria Montessori sur l'enfant et les lois de son développement ? Donc, je vais vous parler de ça dans un premier temps. Donc, elle n'invente rien. L'enfant naît avec un processus de développement interne. Personne n'y échappe, on y est tous passés. De quoi est fait ce processus ? Tout d'abord, il est habité, cet enfant, d'un immense élan de vie. Il veut vivre. Et ça va durer un certain temps. C'est un vivant, il naît avec cet appétit. Et puis, il a le goût de son autonomie. Dès la naissance, on l'observe. C'est là aussi très puissant. Et ça ne le quittera pas. Ce « apprends-moi à faire seul » très connu, ça n'est pas que pendant la petite enfance. Ça dure également pendant tout le temps de la formation de l'homme. Le goût puissant de son autonomie. Pourquoi ? Pour s'appartenir, pour gagner son indépendance par lui-même. Là est sa dignité. Voilà, un élan de vie, le goût de son autonomie. Évidemment, vous connaissez tous ce terme d'esprit absorbant. Son esprit absorbe le monde dans lequel il tombe, qu'il n'a pas choisi, un monde complexe. Il va l'absorber pour s'y adapter. Il le fait sien. Et c'est son air natal pour toujours, quel qu'il soit. Il absorbe tout, le pire comme le meilleur. Il prend, et bien plus qu'une éponge. Il le respire, il s'en imprègne. Une éponge a ses limites. L'âne en lui prend tout. Voilà. Et ça va le constituer définitivement. Donc, une autre caractéristique qui fait l'homme. Période sensible. Sensible aux acquisitions. Pourquoi ? Pour être à l'aise dans ce monde, pour s'y sentir chez lui, pour maîtriser les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Période sensible à certaines acquisitions, à certains moments de sa petite enfance, où il est ouvert, curieux, où tout rentre facilement, où il a le goût de répéter, de s'exercer, d'affiner sa compétence, de raffiner ses sens. Et puis, un autre potentiel de cet enfant qui naît, il a droit à 24 ans pour devenir un homme, un quart de siècle. Parce qu'il ne va pas tout acquérir dans les premières années, tout ne se joue pas avant 6 ans, on le sait bien, les neurosciences le valident également aujourd'hui. Non, il a besoin, il a droit à ses 24, 25 années pour additionner des caractéristiques qui font l'homme et qu'il va acquérir au fur et à mesure des métamorphoses par lesquelles il va passer entre 0 et 25 ans. Je reviendrai sur ces étapes de croissance. Voilà, donc, vous voyez qu'il y a une sacrée force en lui à la naissance, une belle puissance. Néanmoins, elle est extrêmement fragile, cette force, et elle demande des conditions, un environnement préparé. On l'évoque très souvent. Si on veut honorer ce potentiel humain, eh bien cela nous demande à nous d'être capables de voir cela, pas seulement de le lire, mais de le reconnaître chez l'enfant. C'est pour ça que je vous proposais en début de conférence de m'écouter en étant habité de l'un ou l'autre des enfants que vous accompagnez. Voilà, un environnement humain et matériel préparé pour une aide intelligente. C'est donc pas seulement la mise en place de jolis petits plateaux sur de jolis petits tapis. C'est un vrai travail auquel Maria Montessori nous invite en découvrant, en nous révélant comment un enfant grandit et de quoi il est constitué. Donc il ne s'agit pas, c'est pour ça que ce n'est pas une méthode, il ne s'agit pas de donner quelque chose à l'enfant, mais de permettre que se révèle cet élan naturel qu'il habite à la naissance. Voilà, je travaille avec des mind mapping, il y en a deux. Alors, je vous propose de plonger dans l'histoire, parce que là, les années ont passé. Hein, la première maison des enfants, elle date de 1907. Donc, je suis allée fouiner dans les archives du centre Nascita, centre naissance. Le premier centre naissance a été voulu par Maria Montessori. Il est né dans les années 50 à Rome. Ce sont des espaces de recherche pour les étudiants, les parents, les éducateurs. C'était son souhait. Alors, je vais vous proposer, si vous le voulez bien, de fermer les yeux, si ça vous dit. Puis, je vais vous raconter une petite histoire vraie. Faites comme vous voulez, hein. Mais voilà, si vous vous endormez, je ne serai pas vexée. Comment tout est arrivé ? Nous sommes le 6 janvier 1942. Maria Montessori s'adresse à ses étudiants à l'occasion de l'anniversaire des 35 ans d'ouverture de la première maison des enfants. Voilà, donc je vous ai fait une synthèse et puis il y a quelques extraits de Maria directement. comment tout est arrivé. À l'époque, à Rome, chaque petit bout de terrain était convoité. Une société immobilière s'intéressa à un espace en périphérie dans ce quartier de San Lorenzo. Mais cette société fit banqueroute, laissant une sorte de squelette à l'abandon. Les sans-logis, ou ceux qui désiraient se cacher, trouvaient refuge dans ces murs du crime et de l'horreur, appelés les portes de l'enfer. Personne n'y mettait les pieds, voyez, hein, ils vivaient entre eux. Environ 10 000, dont une cinquantaine d'enfants, plus ou moins abandonnés, non civilisés, vivaient là. Plus tard, une société immobilière, une autre, réhabilita ce squelette en vue d'y loger uniquement les familles. Mais pour empêcher les enfants de se livrer à des fantaisies de petits sauvages, tandis que les parents étaient au dehors cherchant des petits boulots, on aménagea une pièce ressemblant à une prison qui leur fut réservée. Maria Montessori dit: on espérait trouver une personne avec assez de courage social pour faire face à la situation. On me proposa, en tant que responsable médical de l'hygiène, de m'intéresser à ce travail. Maria Montessori répondit présent. Elle y installa de grandes tables, quelques matériels de psychologie expérimentale, qu'on appelle aujourd'hui matériel sensoriel et de vie pratique. Et elle le dit, en 42, elle dit: rien de ce que l'on trouve maintenant dans les maisons des enfants, et encore moins que ce que l'on trouve aujourd'hui. Hein, donc, quand on voit les livres avec ces magnifiques tapis blancs et les enfants qui travaillent, bon, on peut rêver. Donc elle répond présent. Elle souhaitait étudier les réactions des enfants dans une situation de liberté d'apprendre au sein d'un asile, en quelque sorte, pour enfants pauvres. Elle embauche une femme de 40 ans qui n'interférait en aucune façon. Aucun instituteur n'a souhaité répondre au poste qui était proposé, pas dans ce quartier et pas pour des enfants non civilisés. Et elle dit: ils pleuraient tous comme des malheureux. À part leur communauté, ils n'avaient jamais vu personne. Le 6 janvier 1907, elle revient là-dessus, auprès de ses étudiants, c'est le jour de la fête pour les enfants pour toute l'Italie, très catholique. C'est l'Épiphanie. On inaugura la pièce. Elle explique: je dis que le travail que nous entreprenions allait se montrer très important et qu'un jour, les gens viendraient de partout pour le voir. On titra dans les journaux dès le lendemain. Quelle exagération dans tout ce qu'elle avait dit. C'est pas trompé, hein? Parce que Montessori, quand même, aujourd'hui... Comme les enfants n'avaient personne pour les enseigner ni intervenir dans leurs activités, ils agissaient spontanément. Leur manière était naturelle. De timides et sauvages qu'ils étaient auparavant, les enfants devinrent sociables et communicatifs. Leurs personnalités se développèrent. Des mères illettrées supplièrent Maria Montessori d'apprendre à leurs enfants à lire et à écrire. Mais Maria Montessori, comme tant d'autres encore aujourd'hui, ne voulut pas, pensant que les enfants étaient trop jeunes, voyez nos croyances en éducation. Elle pensait comme tout le monde. Mais elle se laisse toucher. Je leur ai donné un alphabet. Je leur ai analysé les mots et montré que chacun des mots avait un symbole qui le matérialisait. Ce fut alors qu'eut lieu l'explosion de l'écriture. La nouvelle se répandit dans le monde entier. Tout le monde s'intéressa à cette activité phénoménale. De plus, les enfants non contents d'écrire travaillaient tout le temps sans être forcés par qui que ce soit. Maria Montessori est profondément bouleversée par ce qu'elle voit. Un jour, dit-elle, je regardais les enfants avec des yeux qui les voyaient différents du début. Et je me demandais, qui êtes-vous? Vous, les mêmes enfants que j'ai connus autrefois. Peut-être êtes-vous les enfants dont on dit qu'ils viendraient pour sauver l'humanité. Voyez, dans ce courant des pédagogies nouvelles, hein, j'avais près de 40 ans, J'avais devant moi ma carrière de médecin, de professeur à l'université. J'ai tout abandonné parce que je me suis sentie forcée de les suivre. J'ai vu qu'en eux résidait le secret même de la vie. Elle met alors en lumière les lois naturelles de l'enfant et de son développement. Ma méthode, dit-elle, n'a rien à voir avec une ancienne méthode, vous comprenez bien. Il n'y avait aucune méthode du futur. Elle ne peut pas être venue d'un adulte. L'idée, le principe de se tenir à l'écart pour laisser la place à l'enfant ne serait jamais venu à un adulte. C'est l'enfant lui-même qui contribue. Elle s'est construite ainsi, par lui, au pas à pas. C'est ainsi qu'on est entré dans la pédagogie moderne. L'enfant n'est plus alors réduit à faire ce que veut l'adulte. Il est au cœur de ses apprentissages. Voilà, donc Maria Montessori dit d'elle, très sobrement, très humblement, au plus, ai-je été l'interprète de l'enfant. Voilà, juste ça. Et c'est cette deuxième étape que je vous propose d'aborder, qui est celle d'être un parent chercheur en éducation. C'est une réponse. Comment se faire l'auxiliaire de l'enfant? Comment accompagner cet élan naturel de vie qui l'habite? Voilà. Être parent chercheur, ah ben voilà Elisabeth, la rédac chef de l'Enfant et la Vie qui m'a succédé, qui me prend en photo et qui prend l'assemblée pour le magazine ou peut-être pour les réseaux sociaux. Voilà. Donc, être parent chercheur. Là, tout à l'heure, je vous disais, le meilleur exemple, c'est votre enfant. Maintenant, c'est de votre côté qu'il y a du travail. Voilà. Le meilleur exemple, c'est vous. Rénil de Montessori, que j'ai eu la joie de rencontrer en 2001, avec qui j'ai correspondu, disait « La formation des parents doit devenir un axe, un des axes les plus importants de tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de l'humanité. » Voyez l'enjeu. Déjà, hein ? Déjà, Maria y était très sensible. Une guerre incessante assaille l'enfant dès le jour de sa naissance et fait partie de sa vie pendant toutes ses années de formation. Combien de guerres par méconnaissance ? Léo, il a 2 ans et demi, il est encore changé sur une table allongée. Quel combat à chaque fois ! Alex court toujours parce que dans sa famille, on est toujours en retard. Et même quand il n'est pas en retard, il court. C'est rentré en lui. Cette petite fille, quand ses grands-parents arrivent, quand elle rencontre du monde, la maman lui demande impérativement le baiser. Fais un baiser. Je n'entends pas le bruit du baiser. Et elle attend, tendue, parce qu'il faut entendre aussi ce bruit du baiser. Autant de petites guerres que nous faisons à nos enfants, par méconnaissance, par ignorance que ce sont des êtres profondément sociaux et que par l'imitation et par le goût de l'autre, le baiser viendra à son heure. Voyez, autant de petites disputes qui ne permettent pas à l'enfant, du coup, de faire l'expérience de la paix. Donc, oppression habillée en tendresse, études forcées, rythme effréné, naissance programmée. Quelquefois, c'est judicieux, bien sûr. C'est moi qui sais, c'est moi qui pense, c'est moi qui fais à ta place. Je fais mieux, ça va aller plus vite. Or, ce que nous cherchons en étant parents-chercheurs, c'est d'être dans le vivant. C'est de vivre l'éducation, l'esprit ouvert. C'est une attitude incontournable en éducation. Le monde n'arrête pas de changer. Vous éduquez des enfants dans un monde qui n'est plus le même que le mien. Et puis cet enfant, il naît explorateur pour conquérir le monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a le goût de son autonomie. Donc, qui mieux qu'un parent chercheur, un grand-parent chercheur, un éducateur chercheur, peut le comprendre, peut l'accueillir. La seule chose que ne puisse faire la vie, dit Maria Montessori, c'est de rester stationnaire. Voilà, on est dans du vivant. C'est une attitude qui se développe et que je vais vous présenter en 5 habiletés. Ce parent chercheur, il est confiant. Il n'y a pas d'âge pour être parent chercheur. J'accompagne des assistants maternels 2 jours par semaine. Et dans mon dernier groupe, il y a Sylviane, qui a 55 ans. Et il y a Constance, qui en a 25. Toutes les deux, 30 ans d'écart. Quand je les entends, quand je les vois travailler, je sens combien elles sont des chercheuses, ouvertes, curieuses. Le vivant ne leur fait pas peur. Et Sylviane, qui vient à cette formation, elle est étonnée. Elle dit, bah, vraiment, je ne savais pas que j'allais encore apprendre. Et elle a soif de transformer son environnement en tant qu'assistante maternelle. Voilà. Et Constance, qui est en plein dans le portage, qui est dans l'allaitement à longue durée de son bambin, qui est dans un milieu de maternage. Voilà, il y a cette même soif qui les relie. Aller de l'avant, avancer. Ne pas s'enfermer. Alors, donc, ces attitudes. Eh bien, d'abord, je me fais observateur de la vie. Qui es-tu, mon enfant? Qu'as-tu à m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers tes comportements?